Côté Santé, Igor Strauss.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des femmes face à l'alcool, car si l'alcoolisme des hommes est reconnu comme une maladie, celui des femmes est souvent considéré comme une tare ou un vice. Alors pourquoi une telle discrimination? L'alcoolisme des femmes est-il différent de celui des hommes? Nous en parlons aujourd'hui avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, qui vient de publier « Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir » aux éditions Odile Jacob, et avec Michel de l'association des alcooliques anonymes, où il est responsable du parrainage avec l'Afrique francophone. Et si vous souhaitez participer à l'émission, poser une question à nos invités, eh bien vous nous appelez au 33 1 56 40 18 22 ou vous nous écrivez à priorité.santé@rfi.fr. Et tout de suite, nous partons à La Réunion, puisque nous sommes en ligne avec le docteur Denis Lamblin. Docteur Denis Lamblin, bonjour.
Bonjour, monsieur Igor Strauss. Bonjour, docteur Fatma Bouvet.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Michel.
Bonjour.
Alors, vous êtes pédiatre et président de SAF France, une plateforme de réseau de prévention sur le syndrome d'alcoolisation fœtale. Première question, qu'est-ce que le syndrome d'alcoolisation fœtale?
En fait, le syndrome d'alcoolisation fœtale résume toutes les conséquences que pourrait avoir un fœtus à la naissance suite à l'alcoolisation qu'il pourrait recevoir in utero. Il faut savoir que l'Académie nationale de médecine reconnaît que la consommation d'alcool pendant la grossesse représente la première cause de déficience mentale et d'inadaptation sociale non génétique et de surcroît totalement évitable. C'est une des rares causes de déficience mentale ou de troubles des apprentissages qui pourraient être évitées à condition que la maman ne prenne pas d'alcool pendant la grossesse.
Et alors, Denis Lamblin, il faut préciser que chaque année en France, 7000 enfants naissent fragilisés justement par les effets de l'alcool sur le fœtus. C'est considérable.
Oui, c'est considérable et c'est très souvent pas reconnu. En fait, il existe, les troubles causés par l'alcoolisation fœtale se présentent sous très nombreuses formes cliniques qui vont former un continuum. Ça va de la mort du fœtus, et les fœtus qui ne supportent pas l'alcoolisation maternelle et qui vont décéder in utero, c'est une des causes fréquentes de mort in utero, jusqu'à des enfants qui ont une relative normalité parce que, en fait, l'expression des difficultés va se faire très tardivement, souvent vers l'âge de 5, 6, 7 ans, et ça ne va pas être mis en lien avec les alcoolisations prénatales.
C'est ça, parce que les effets de l'alcool sur le fœtus s'expriment généralement plusieurs années après la naissance, et donc les mamans ne font pas le lien entre le fait d'avoir bu pendant la grossesse et le développement anormal de leur enfant, et c'est bien là qu'est le problème.
Le problème est là, mais il est aussi du fait que les professionnels connaissent mal cette problématique et mettent pas en lien les difficultés de l'enfant avec l'alcoolisation prénatale. Et si on ne fait pas le diagnostic pour le premier enfant, on aura un deuxième enfant, très vraisemblablement atteint. Vous avez entendu très attentivement cette maman parler de son problème. On voit que c'est une maladie chronique. Le docteur Fatma Bouvet a bien expliqué que c'était quelque chose de difficile à soigner et que si on a un enfant porteur de syndrome d'alcoolisation fœtale, on a au risque d'avoir un deuxième enfant. Il faut savoir qu'à chaque enfant, le risque augmente et que l'atteinte est plus importante. Alors, vous avez, comme je l'ai dit, des enfants qui ne vont pas pouvoir survivre à l'alcoolisation prénatale. Ce sont des alcoolisations chroniques très importantes, mais ça peut être dû à des alcoolisations aiguës qui vont provoquer des malformations. Savoir que l'alcool est un tératogène, c'est-à-dire qu'il provoque des malformations. Et la tératogénicité, c'est la première partie de la grossesse, c'est-à-dire les 4 premiers mois de la grossesse. Vous avez un risque. Si vous buvez une forte dose d'alcool à un moment où se forme le cœur, vous pouvez avoir des malformations du cœur. Au moment où ça se forme les yeux, vous pouvez avoir une malformation des yeux. Et vous ne pouvez pas savoir si vous protégez votre enfant ou si vous êtes non protecteur. Tous les enfants sont différents. Les fœtus, c'est des fœtus qui sont plus ou moins résistants, c'est génétiquement programmé, mais nous ne connaissons pas les gènes qui permettent de dire si un fœtus est protégé ou moins protégé aux doses d'alcool. Et pareil, les mamans métabolisent, donc c'est-à-dire protègent leur bébé ou ne protègent pas leur bébé. Il y a des mamans qui sont plus ou moins protectrices. Mais à des doses importantes, aucune maman n'est protectrice par rapport au bébé, et le bébé prend cet alcool et qui va avoir un impact surtout au niveau de son cerveau.
Fatma Bouvet de la Maisonneuve voulait réagir, une petite réaction.
D'abord, je voulais effectivement réagir sur la notion de la méconnaissance de cette maladie, et je pense qu'il y a un très lourd tabou qui pèse sur l'alcool et les femmes à la fois pendant leur grossesse. C'est vrai que les femmes sont toujours interrogées sur leur consommation d'alcool, mais ça n'est qu'une seule fois. Je suis médecin, mais j'ai été aussi mère, et je me souviens que le gynéco ne pose la question qu'une seule fois. Je pense également que dans le cadre des consultations de médecine générale, cela doit être une question qui doit être posée aussi fréquemment et aussi systématiquement que celle pour le tabac. Donc effectivement, il y a un lourd tabou, et je vous remercie de nous permettre de parler de cette pathologie. Et j'avais un chiffre également que j'ai retrouvé quelque part, qui était celui de 5% des femmes qui consomment 3 verres d'alcool en moyenne par jour. Est-ce que vous en aviez connaissance, et est-ce que la question de un seul verre de vin, qui est assez polémique en ce moment pendant la grossesse, pour vous est un facteur de risque?
Alors, une question du docteur Bouvet au docteur Denis Lamblin.
En fait, les chiffres de 5%, c'est en France, à La Réunion entre autres, on a fait des études aussi sur les consommations. 5% des grossesses se déroulent dans un contexte d'alcoolisation maternelle qui est toujours à risque. Un verre d'alcool peut être à risque si on est une maman qui, génétiquement, une maman qui n'est pas très protectrice par rapport à la prise d'alcool, et si son fœtus est aussi génétiquement sensible à l'alcool. Et si ce verre d'alcool arrive sur un terrain prédisposant par rapport à une malformation potentielle, cette malformation va s'exprimer. C'est toujours le problème de le risque n'est pas à chaque fois, c'est un risque qui augmente avec les prises d'alcool. Mais il faut savoir que toute prise d'alcool met en danger le bébé, qui n'en a pas besoin. Le fœtus n'a pas besoin d'alcool pour grandir.
Et docteur, on insiste, hein, le docteur Bouvet de la Maisonneuve le disait tout à l'heure, en France, il y a beaucoup de prévention autour du tabac. On incite les jeunes mères, enfin les femmes en grossesse, à surtout ne pas fumer, mais on n'insiste pas assez sur cette notion d'alcool. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire des efforts dans ce sens?
Ah oui, c'est quelque chose qui est discuté actuellement. On ne peut pas comprendre tout le battage médiatique sur la prévention du tabagisme pendant la grossesse et la faible médiatisation autour de l'alcool pendant la grossesse. Or, le produit alcool est plus toxique que le tabac, parce qu'il est, en plus de la toxicité, responsable de l'hypooxygénation du bébé, c'est-à-dire un bébé qui va avoir moins d'oxygène. Vous avez cet aspect tératogène du produit alcool qui provoque des malformations. Et ces malformations, elles peuvent se faire pendant toute la première partie de grossesse, mais pour le cerveau, pendant toute la grossesse. Mmh. Et si vous voulez, je crois que suite à l'aventure réunionnaise, il y a un programme très particulier de prévention de ce problème avec des enquêtes épidémiologiques, des campagnes de prévention santé primaire, secondaire et tertiaire, la mise en place d'un outil de coordination pour aller vers ces femmes qui s'isolent. Donc ces femmes qui s'isolent, comme l'a très bien dit Dr. Fatma Bouvet, il faut aller vers elles. Et on a mis en place tout un système qui permet d'aller vers elles et surtout de bien montrer qu'on est là, même si elles ne veulent pas ouvrir la porte, si elles sont anxieuses à l'idée de nous parler, et si elles ont peur que... Si on les voit dans cet état-là, on le place leur enfant. C'est toutes des choses qu'on a compris par les témoignages de ces femmes. Et il est important qu'on puisse écouter ces femmes pour mieux appréhender la prévention de syndrome d'alcoolisation fœtale. Mais vous l'avez très bien dit, il y a un déni aussi des professionnels. Ils ont beaucoup de mal à parler de ce problème, peut-être parce qu'ils n'ont pas de solution à proposer, parce que c'est quelque chose qui les gêne. Mais c'est une demande des mamans, une demande des femmes... Surtout aborder avec vos patientes le problème d'alcool. Elles n'attendent que cela pour pouvoir en parler.
Alors, une petite réaction de Fatma Bouvet de la Maisonneuve.
Tout à fait. Elles n'attendent que cela pour en parler, effectivement. Sur la question de la prévention par rapport au tabac, il faut savoir que l'alcool est un produit de plaisir, est un produit qui fait partie de la culture française, évidemment, mais il y a des personnes qui sont fragiles à ce produit qui peut être donc dangereux. Aujourd'hui, on dit que 5 millions de personnes ont des problèmes avec l'alcool, 2 millions d'entre elles seraient dépendants. C'est cette question et ce produit aujourd'hui à un coût. Un cinquième des activités médicales sont consacrées aux patients qui présentent un problème d'alcool. Et je voudrais également insister sur la question de l'alcool dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, l'alcool est un problème important pour 85% des DRH. Il faut savoir que 11 à 14% des salariés boivent sur leur lieu du travail en dehors des pots et des repas. Où sont les programmes de sensibilisation et de prévention? Il doit certainement y en avoir, mais ils sont à mon sens confidentiels et insuffisants.
On va y revenir. Merci Denis Lamblin. Je rappelle que vous êtes pédiatre et président de SAF France, une plateforme de réseau de prévention sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, un syndrome méconnu en France.
Ah, ça y est, ça me reprend, ça va venir, je le sens. Y'a du sable dans mon sang, je suis raide comme un pic, ça s'effrite là-dedans. Ça me pèse sur la colonne, où je trouve le sérum, avant que je transforme mon corps en uniforme. Tout est sec, je suis à cran. Faut que je trouve une enseigne de la chaleur humaine, avant de glacer mes veines, que je puisse épaster un aussi triste que la mienne. Maintenant, ça commence à sentir le sapin. Y'a le feu qui s'éteint, faut que je change de face, que je toise la fosse, que je bombe le torse, que je chiale comme un gosse dans les seins d'une grosse.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans les veines, ça calme ma peine.
Serre-moi un cœur de l'armée du rouge, un refrain à boire.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans les veines, ça calme ma peine.
Donne-moi un gospel de bouge, une chanson de comptoir.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans les veines, ça calme ma peine.
Serre-moi une rengaine de baleinier, le hook, le crochet.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Remplis mon verre et arrête de parler. J'accroche ma peine au porte-bateau, embarque sur l'oubli. Eh oui, je laisse au vestiaire ma dignité. Je vais voguer sur mon flot, seul dans l'arène de la nuit, quitte à être demain la ruine de l'année. M'arrimer aux zinc pour siffler mon air, j'alpague le bar du poignet de fer, l'arc et les marques qui se soudent au calcaire. J'ai besoin d'un mousse pour quitter le picon. Ma tape, c'est ma teuf, ma tasse, mon typhon, c'est ma tournée, sortez des sous de caisse, cale les fûts dans les basses, branche les jacks, c'est tes fesses.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Serre-moi un cœur de l'armée du rouge, un refrain à boire.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Donne-moi un gospel de bouge, une chanson de comptoir.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans les veines, ça calme ma peine.
Serre-moi une rengaine de baleinier, le hook, le crochet.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Remplis mon verre et arrête de parler.
Java, la mer à boire sur RFI, dans Priorité Santé, une émission consacrée aux femmes face à l'alcool. Car si l'alcoolisme des hommes est reconnu comme une maladie, celui des femmes est trop souvent considéré comme une tare ou un vice. Alors pourquoi une telle discrimination? L'alcoolisme des femmes est-il différent de celui des hommes? Nous en parlons avec le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui vient de publier « Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir » aux éditions Odile Jacob. Et avec Michel, qui nous fait le plaisir d'être ici dans ce studio, des alcooliques anonymes. Alors, docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, l'alcoolisme est une maladie, mais on peut se soigner.
Absolument, on peut se soigner, mais on ne peut pas en guérir, comme le disait Michel tout à l'heure. Les spécialistes sont nombreux, les spécialistes, les médecins, les infirmiers, les psychologues connaissent cette pathologie. C'est une pathologie qu'on enseigne à la faculté de médecine. C'est la raison pour laquelle je dis dans mon livre qu'il n'y a absolument aucun jugement moral que nous pouvons apporter à ce type de comportement. Il y a des moyens chimiothérapiques, donc il y a des médicaments qui aident à l'abstinence, qui marchent plus ou moins. Nous n'avons pas de traitement miracle. Nous pouvons également traiter les troubles des comorbides, c'est-à-dire le trouble jumeau dont je parlais tout à l'heure et qui est très fréquent chez la femme, qui est essentiellement la dépression et les troubles anxieux. C'est souvent d'ailleurs un facteur de bon pronostic pour la guérison, pour l'amélioration de la maladie alcoolique. Traiter la dépression qui a été à l'occasion de la consommation d'alcool améliore la prise en charge par la suite. Et traiter la dépression qui complique la maladie alcoolique, parce que l'alcoolisme se complique également de dépression, est également un facteur de bon pronostic pour la prise en charge et pour l'avenir de la patiente.
Alors, à chaque consommateur son remède. Dans votre livre, Les femmes face à l'alcool, vous citez Pierre Fouquet, le fondateur de l'alcoologie moderne, et vous citez plusieurs catégories de consommateurs. Alors, l'alcoolite, l'alcoolose et le somalcoolose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, ce sont des catégories que nous n'utilisons plus aujourd'hui, donc je crois qu'il ne faut pas trop compliquer la tête des personnes qui nous écoutent avec cela. Aujourd'hui,
il y a ceux qui consomment régulièrement.
Il y a l'abus et il y a la dépendance aujourd'hui. Voilà. Je crois que ce sont deux catégories qu'il faut véritablement retenir et qui peuvent être également rassurantes pour les personnes qui nous écoutent, car on peut être abuseur sans avoir été dépendant. C'est très important. La dépendance étant un cran, on va dire, supplémentaire dans la difficulté de la prise en charge dans le contexte médical. Je ne sais pas si Michel aurait quelque chose à rajouter là-dessus.
Mais on va lui demander, Michel.
Les deux étant des pathologies, bien évidemment.
Tout à fait, oui. Et moi, je voudrais revenir aussi sur le rétablissement par rapport à ce que vous aviez évoqué. Bien sûr, dans notre maladie, nous avons énormément besoin de la médecine pour se rétablir et nous avons également besoin des groupes d'entraide. Je sais que dans mon expérience, pendant longtemps, nous avions peu de femmes dans nos réunions. Et pour quelles raisons on se posait la question. Et la réponse que nous avons trouvée, c'est que dans un ménage, dans un couple, lorsque le mari boit, la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et lorsque c'est la femme qui boit, assez souvent, le mari s'en va parce qu'il ne supporte pas que sa femme consomme et elle reste isolée chez elle parce que l'alcoolisme est une maladie qui est encore plus honteuse pour une femme que pour un homme. Elle reste à la maison pour garder les enfants, donc elle a du mal pour venir aux réunions également. Mais je dirais que plus le temps passe et plus les femmes osent franchir le pas et venir voir des médecins parce que elles ont un problème avec l'alcool et ensuite venir dans nos groupes.
Alors, peu de femmes dans les groupes d'entraide, pourtant elles sont de plus en plus à franchir les portes des alcooliques anonymes. Fatma Bouvet de la Maisonneuve, vous vouliez réagir aux propos de Michel.
Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas fini la liste des moyens de prise en charge. Je crois énormément aux associations d'anciens buveurs.
Parler de sa maladie est fondamental.
Absolument. Hein. Échanger dans les salles de consultation, se donner les petites astuces. Le médecin, je dirais, n'est qu'une béquille là-dedans. Nous n'avons pas, pour certains d'entre nous, peut-être certains ont-ils été alcoolodépendants auparavant, mais nous n'avons pas cette expérience. Et donc le meilleur traitement est de pouvoir échanger les astuces qui ont fait que les autres ont réussi. Donc les groupes de parole, oui, évidemment. Je voudrais parler d'une expérience dans notre service où nous avons mis en place un groupe de parole pour femmes. Pourquoi ? Vous dites que les femmes, effectivement, viennent de plus en plus souvent dans les groupes de parole, dans les groupes d'alcooliques, des alcooliques anonymes ou d'autres groupes d'ailleurs qui existent. Mais il y a une dimension intime, il y a une dimension extrêmement privée dont mes patientes me parlent et dont elles disent qu'elles arrivent difficilement à les partager dans un milieu masculin. C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris de créer ce groupe de parole pour femmes où les femmes se sentent extrêmement à l'aise. Elles se sont appropriées ce groupe finalement. C'est les rendez-vous à Sainte-Anne du mercredi après-midi. Elles s'échangent les numéros de téléphone. Elles fonctionnent un tout petit peu comme sur le modèle des alcooliques anonymes. Certaines d'entre elles sont aux alcooliques anonymes, sont des piliers, des très anciennes des alcooliques anonymes, donnent également, partagent leur expérience avec les plus jeunes, mais c'est un lieu où elles peuvent échanger des choses qu'elles n'échangeraient jamais devant les hommes.
Alors échanger, partager son expérience et surtout sentir que l'on n'est pas seul, c'est le but de ces groupes de parole, des alcooliques anonymes. Michel, vous vouliez rajouter un petit mot?
Oui. Moi, ce que j'ai compris qui m'a sauvé quelque part aussi, c'est que pour moi l'alcoolisme est une maladie de la solitude et de la communication. Et à partir du moment où j'ai pu commencer à parler de moi, à parler de ce que une fois que j'avais entendu les témoignages des autres, que j'ai pu me sentir moins honteux et à déculpabiliser, à ce moment-là, je me suis rendu compte que la parole avait quelque chose de magique. Et cela est très très important dans notre traitement.
Alors, docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, dans votre livre « Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir », à la conclusion, vous dites « Demander de l'aide est la seule solution, l'isolement, la pire ». Absolument. C'est ce que disait Michel, l'isolement, c'est la pire des choses, finalement.
Je pense que dans la vie, d'une façon générale, il faut être modeste, et nous avons tous besoin les uns des autres, que ce soit lorsqu'on est malade d'alcool ou lorsqu'on va mal, pour un petit événement bénin. Et donc, a fortiori, lorsqu'on va très très mal, je pense qu'il faut oser demander de l'aide. On n'est pas surpuissant, on a nos moments de faiblesse et il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide à un médecin, un infirmier,
oui,
un psychologue.
Ça,
absolument, nous sommes formés pour ça et il n'y a absolument aucun jugement moral, je le répète, sur quelque comportement que ce soit.
Voilà. Justement, les patients qui viennent vous voir dans votre cabinet vous disaient souvent « Docteur, je crois que je suis maso ». Vous l'avez entendu souvent, ça, et vous en parlez dans votre livre.
Oui, alors j'ai tout un chapitre là-dessus, avec des termes extrêmement compliqués d'ordre psychanalytique. Je voudrais simplement dire que ce sont des femmes qui sont capables d'énormément de sacrifices, qui sont capables d'une capacité de souffrance extrême. D'ailleurs, ce sont des femmes à qui, lorsque je pose la question de qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qui sont muettes, parce qu'en fait, elles ne se sont jamais intéressées à leur véritable désir, elles sont toujours tournées vers les autres, tournées vers le sacrifice pour les autres, et elles s'oublient totalement.
Priorité santé, Igor Strauss.
Michel, vous êtes de l'association des Alcooliques Anonymes, responsable du parrainage avec l'Afrique francophone. Où est-ce que l'on peut trouver en Afrique des Alcooliques Anonymes ?
Alors, actuellement, Alcoolique Anonyme est présent dans 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Pour les citer, donc, je dirais le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République du Congo, le Tchad, le Mali et le Togo. Alcoolique Anonyme a commencé au Cameroun dans les années 96 et actuellement il y a une cinquantaine de groupes dans ce pays et plus particulièrement sur les villes de Douala et de Yaoundé. Et pour nous,
au Cameroun.
Oui. Et pour nous, ça va être, je dirais, le pays phare de l'Afrique, de manière à ce que les autres pays qui commencent puissent se développer. Et je voudrais faire une toute petite parenthèse par rapport à cela. Il se trouve qu'en 2005, RFI avait fait un reportage. Quand nous avions eu à Paris notre convention, notre congrès national, et quand ce reportage a été diffusé en Afrique, un ami malien a entendu ce reportage et il a écrit au bureau des services généraux de Paris, qui lui a envoyé donc de la documentation. Et l'ami n'a pas cessé de boire pour autant. Il a continué à boire, il a oublié ses documentations. Et un jour, qu'il est enrhumé, il est rentré du travail, et il dit à sa femme, « Je suis très très malade, je t'ai rapporté une bouteille de rhum, fais-moi un grog bien fort pour que je guérisse. » Pendant que sa femme chauffe l'eau, il tombe sur les papiers qui avaient été envoyés par les Alcooliques Anonymes, il les lit, et il n'a jamais consommé son verre de rhum. Et quelques temps plus tard, il nous a écrit pour dire qu'il voulait ouvrir un grog, et c'est comme ça que le premier groupe est né au Mali.
C'est une très belle histoire.
Ouais.
Alors, ce sont eux qui sont venus vous chercher. Comment ça s'est fait ? Racontez-nous-le.
Oui, ça se passe toujours de cette manière. Nous n'allons jamais dans un pays pour faire de la publicité. C'est toujours quelqu'un d'un pays qui nous appelle à l'aide. Et à ce moment-là, nous pouvons faire quelque chose. Et dans tous les pays, dans les 8 pays, cela s'est fait comme ça.
Et vous pensez qu'il y a une... Oui, pardon, vous
vouliez réagir? Je voulais juste parler de la question du Maghreb, oui. À laquelle je suis particulièrement sensible.
Vous avez fait une thèse sur l'alcool.
Voilà, j'ai fait une thèse sur l'alcoolisme en Tunisie, dont un chapitre sur la consommation d'alcool par les femmes tunisiennes. Je pense qu'il faut réfléchir effectivement à établir des antennes dans les pays du Maghreb.
Oui. Alors pour quand les alcooliques anonymes dans les pays du Maghreb?
Alors pour quand? Eh bien, je peux vous annoncer une bonne nouvelle, et c'est que depuis quelque temps, je suis en contact avec une dame médecin psychiatre qui habite au Maroc et qui a participé à une réunion à Paris il y a peu de temps, une réunion des alcooliques anonymes, et elle est rentrée chez elle avec de la documentation. Je suis en contact mail avec elle, et actuellement, elle est en train de travailler pour traduire notre documentation et aider à ouvrir un groupe d'alcooliques anonymes au Maroc. Alors pour nous, ce sera vraiment quelque chose de très très beau. Nous n'attendons que cela, et je pense que des émissions comme aujourd'hui nous aident beaucoup pour retransmettre ce message.
Affaire à suivre. Merci beaucoup Michel des Alcooliques Anonymes. Merci infiniment Docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Je rappelle que vous venez de publier Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir, aux éditions Odile Jacob. Cette émission a été préparée par Marina Borriello. À la réalisation, c'était François Porcheron. Demain, nous parlerons du service des urgences des hôpitaux de Paris. Bonne journée à tous et à demain.
Vous souhaitez réécouter Priorité Santé ? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.